Même quelques minutes pour présenter le Nord qui veut. Bonjour à tout le monde, content de voir Katharina de retour parmi nous. Katharina, l'épouse de Samuel, malade depuis des vacances en Turquie. Je serais étonné qu'ils vont retourner en Turquie après cette expérience, mais ça c'est à voir. Content également de voir toi, Frédérica, parmi nous. Je sais que ce n'est pas la première fois depuis le décès de Selim, mais néanmoins, nous voulons continuer à prier pour toi et que le Seigneur t'aide dans ces semaines et ces mois à venir. Content aussi de voir quelques visiteurs, quelques nouveaux visages. Je n'ai pas consulté mes frères anciens par rapport à ceci, mais je vais me lancer pour dire que dimanche prochain, après le deuxième culte, moi j'aimerais prendre une petite demi-heure avec des nouvelles personnes, ceux qui sont arrivés récemment dans l'Église et qui aimeraient juste savoir un peu plus sur nous en tant qu'Église et sur vous, comment vous pouvez vous engager au sein de l'Église, qu'est-ce que la mission de l'Église, comment nous fonctionnons, répondre éventuellement à vos questions. Je suis conscient qu'on a pas mal dans cette catégorie-là et je pense que de temps en temps, c'est bien que nous présentons juste brièvement certaines choses et comme ça, vous vous sentez un peu mieux placé pour comprendre ce que nous faisons. Content aussi de voir les beaux-parents de Robbie parmi nous. Je ne les ai pas mentionnés. Bienvenue à vous deux également. J'avais aussi une autre chose à dire, mais maintenant, cette chose est sortie de la tête. Donc, c'est bien parce que ça veut dire qu'on doit se concentrer, n'est-ce pas, à nous, sur la prédication. Donc, voilà, si vous pouvez retrouver, si vous avez fermé. Normalement, on essaye de mettre sur l'écran, mais on a juste des difficultés ce matin. Donc, si vous avez le texte de Hébreux, chapitre 3, sous les yeux, ce serait magnifique. Page 1204. 1204 dans cette Bible que vous avez sur les chaises, vous trouvez ça sur votre écran vous-même. Je vais prier et ensuite nous allons essayer de voir ça ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et nous te demandons que cette parole pénètre jusqu'au plus profond de notre âme, pour que nous puissions nous aussi contempler ta gloire en Jésus-Christ, nous puissions persévérer dans la foi en Jésus-Christ, parce que nous voyons son importance. Donne-nous, Seigneur, donc, de t'écouter et d'encourager les uns les autres autour de ce message. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Mais je suppose, si vous voulez voir où est-ce que je vais essayer de nous... Ah, super! On a quelque chose sur l'écran. Merci, mes amis. Là-bas. Donc, si vous voulez suivre le plan de ce message, vous trouverez ça sur le dos du feuillet que vous avez sous les mains. J'imagine, nous savons tous ce que c'est d'apprendre des erreurs du passé. C'est quelque chose d'important dans la vie, n'est-ce pas, que nous devons apprendre, si possible, des erreurs du passé. Malheureusement, surtout si nous sommes parents, nous voyons les erreurs que nous avons faites se répéter chez nos enfants qui se sentent tout fiers d'eux-mêmes et ne veulent pas nous écouter. Mes enfants ne sont pas avec nous juste pour ce premier culte, donc voilà pourquoi je me permettais de le dire. Mais nous devons essayer d'apprendre des erreurs du passé. Je ne sais pas si vous avez suivi des campagnes électorales communales, est-ce que vous avez déjà voté? J'espère que vous allez voter. En fait, vous êtes obligation, chers amis, je pense, de voter. Donc, allez voter après. Je ne vais pas vous dire comment il faut voter. Ce n'est pas à ma place. Mais l'un des points mis en avant pendant les campagnes électorales, c'était ce que nous avons appelé le cumul des mandats. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le cumul des mandats, que suite au scandale ce dernier temps de Publifin et SAMU Social, il fallait réduire la capacité de certains élus de bénéficier de plusieurs mandats publics rémunérés en même temps. Je ne sais pas votre avis là-dessus, mais voici ce que disait le bourgmestre de notre commune, M. Minguin, à ce sujet. Il disait que si les électeurs veulent bien lui renouveler leur confiance aujourd'hui, il ne se représentera plus aux élections législatives fédérales. Donc celui qui jongle, pour le moment, en tout cas, entre sa casquette de député fédéral et celle de bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et président du parti Défi, il promet que le cumul des mandats, c'est bientôt terminé. Alors ça, c'est d'apprendre, dans un sens, des erreurs du passé. D'autres politiques ont réclamé la même chose pendant cette campagne parce qu'ils cherchent à apprendre. Les erreurs du passé, c'est bien. Bon, à vous de juger si vous pensez qu'une telle politique est bonne. Ce n'est pas à moi de me déclarer là-dessus. Donc, prenez ça en compte, si vous le voulez, lorsque vous votez. Mais si d'un côté, nous voulons apprendre des erreurs du passé, d'un autre côté, nous avons du mal à apprendre du passé. N'est-ce pas? Chaque génération a du mal à accepter que leur génération reproduise les mêmes erreurs que celles qui l'ont précédé. Et donc, ce qui vaut pour les différents domaines de notre vie vaut également pour le parcours d'un croyant chrétien, chers amis. Nous sommes appelés à apprendre des erreurs du passé, de nos prédécesseurs. Et ce texte-ci, c'est la leçon d'apprendre selon les deux chapitres de Hébreux 3 et Hébreux 4. Nous devons apprendre la persévérance dans la foi chrétienne, et cela à la lumière de ceux qui nous ont précédés. Verset 6 de notre texte, le verset où on avait terminé avec celui-là la fois dernière, nous dit ceci, nous sommes, il parle des croyants, des chrétiens, nous sommes sa maison, la maison de Dieu, si nous retenons l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et donc, pour élaborer cette exhortation, il va continuer à partir du verset 7 à citer le psaume 95 que nous avons lu tantôt. C'est pourquoi, dans verset 7, selon ce que dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, maintenant il cite le psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit dit donc de faire attention, de ne pas endurcir notre cœur contre la voix de Dieu. Car, le psaume continue, cela c'est bien ce qui s'est passé dans le passé. À quel moment? Alors il dit, comme lors de la révolte, comme à Meriba, parce que le mot en hébreu, Meriba, signifie révolte. Comme au jour de la tentation, c'est-à-dire Massa. Le mot « massa » signifie « tentation » ou « épreuve ». Et donc, cela parle de cet épisode que nous avons lu, là où le peuple rouspétait contre Moïse, contre Dieu. Il réclamait même que c'était meilleur en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous mettre ici où on a soif, où on ne vit pas bien? Mais ils oublient qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et cela malgré le fait qu'ils avaient été témoins des œuvres impressionnantes de Dieu. C'est ça, de nouveau, ce que dit le psaume 95. Ils ont vu les 10 plaies, la séparation de la mer Rouge, la provision de Dieu, de la manne. Mais néanmoins, ils rouspétaient, ils ne faisaient pas confiance. Ils disaient, on n'aimerait pas être ici, on préférait être sous le joug de Pharaon. Et cela avait suscité l'indignation de Dieu. C'est pourquoi, continue le texte, il fut indigné contre cette génération qui avait, d'après Nombre chapitre 14, peut-être nous le savons, le résultat que la génération des rescapés d'Égypte, à quelques exceptions près, était condamné à ne pas entrer dans la terre promise. Non, Dieu empêchait leur entrée et par conséquent, ils devaient circuler dans le désert pendant 40 ans pour que cette génération rebelle meure. Et notre auteur, à partir du verset 12, tire des conclusions. Prenez donc garde, frère, dit-il au verset 12. Mais c'est bien de prendre un moment, avant de voir plus ces exhortations, pour considérer que nous avons affaire ici à quatre générations différentes lorsque nous abordons ce texte. D'abord, donc, il y a des Israélites lors de l'Exode, avant l'entrée dans la terre promise. C'est leur mauvais exemple qui est en jeu ici. Ensuite, il y a des croyants à l'époque du psaume 95, écrit bien des générations après la génération qui tombait dans le désert. L'avertissement s'adressait à cette nouvelle génération d'Israélites, car le psalmiste disait « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix ». Mais le « aujourd'hui » à ce moment-là, c'était il y a longtemps pour nous, n'est-ce pas? Ensuite, la troisième génération concernée, c'est après la mort et la résurrection de Jésus, il y a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui s'adresse à des jeunes chrétiens sous pression de retourner vers le judaïsme. Et il, c'est ça ce qui paraît en tout cas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit, verset 15, que le « aujourd'hui » du psaume 95 reste en vigueur dans leur époque. Aujourd'hui, dit-il, faites attention, n'endurcissez pas vos cœurs. Et donc, il y a trois générations dont on a parlé jusqu'ici, mais aujourd'hui, il y a la nôtre, quatrième génération concernée, les chrétiens du 21e siècle, ici rassemblés dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, un dimanche matin en octobre 2018. Et nous sommes rassemblés pour réfléchir également aujourd'hui sur cette mise en garde. Le « aujourd'hui » du psaume 95 s'applique également, encore ce matin, à nous. Donc si vous n'avez pas jusque-là dans votre parcours réellement réfléchi à la génération qui tombait dans le désert, c'est le moment d'y penser aujourd'hui. Parce que l'auteur nous en parle. Si vous avez déjà fait cela dans le passé, c'est le moment d'y repenser, chers amis. Car c'est un appel répétitif, n'est-ce pas? Trois générations qui devaient réfléchir à ceci. C'est à apprendre et à réapprendre. Que nous soyons tout jeunes dans la foi, que nous soyons mûrs dans la foi, d'une génération à une autre. Et c'est à noter donc qu'il y a des ressemblances entre les générations de l'Ancien Testament qui nous a précédés et la nôtre encore aujourd'hui. Le cœur humain n'a pas changé, chers amis. Et l'œuvre de Dieu qui fait des choses étonnantes n'a pas changé non plus. Eux, ils avaient vu les œuvres de Dieu pendant 40 ans, en sortant d'Égypte, mais nous avons vu les œuvres de Dieu à travers le témoignage des apôtres. Des œuvres encore plus grandes. La naissance de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, son autorité sur la création, sur la nature, son autorité sur les hommes, sur la maladie, sur la mort, son sacrifice de lui-même sur une croix romaine pour que nous puissions avoir le pardon des péchés, sa propre résurrection d'entre les morts, son ascension, le don de son esprit. Nous avons vu plus d'œuvres étonnantes que la génération qui sortait d'Égypte. Les œuvres du Seigneur, il n'en manque pas en ce qui nous concerne. Et toutes ces œuvres se trouvent ici, dans la Bible. C'est pour cela que nous devons commencer avec la lecture du Nouveau Testament si nous ne sommes pas encore commencés, nous n'avons pas encore commencé dans le parcours chrétien. C'est ici que nous nous familiarisons avec les œuvres de Dieu, afin d'être par la suite bien placé pour placer notre confiance en Dieu. Donc si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Christ, Lisez le témoignage des apôtres de Jésus-Christ. Car ainsi, vous pouvez voir à quel point Dieu est digne de confiance. Et si nous faisons cela, verset 14 de notre texte, nous devenons participants du Christ. Vous voyez ça? C'est-à-dire bénéficiaires de ce que Christ nous apporte. Nous partageons comme des partenaires dans un business, dans une société, les bienfaits qui découlent de Jésus-Christ, son pardon, la vie éternelle, l'espérance chrétienne dont il nous a déjà parlé au chapitre 2. Et donc, à la lumière de ses œuvres, notre auteur nous donne donc deux exhortations pour que nous comprenions, nous apprenions les erreurs de cette génération qui est morte dans le désert. D'abord, une exhortation qui est négative, quelque chose à éviter, et ensuite une exhortation qui est positive, quelque chose à faire. Donc d'abord, prenons garde, nous devons bien comprendre le danger que pose un cœur méchant et incrédule. Prenez donc garde, frère, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le danger, c'est de se détourner du Dieu vivant. Le mot pour se détourner, c'est le mot d'où vient notre mot apostasie. Cela signifie que c'est possible, donc, de faire semblant pendant un temps de la foi chrétienne. D'une foi apparente, une foi fausse, une foi simulée, qui donne l'impression d'être authentique, mais qui ne l'est pas. Une foi qui, pendant un temps, ressemble à la foi des autres, mais qui se révèle fausse ou simulée par les différentes circonstances de la vie. Qu'est-ce qui arrive? Le cœur méchant et incrédule nous détourne de Dieu. Il ne faut pas être naïf à l'égard du cœur humain, chers amis. Les Israélites, bien que délivrés de Dieu, de l'Égypte, se trouvaient en difficulté dans le désert. Ils se plaignaient. Mais au lieu de se tourner vers Dieu à ce moment-là, ils se sont détournés de lui. Tout d'un coup, ils devaient faire face à la réalité que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons au moment que nous le voulons. Parfois, Dieu, dans sa sagesse, il permet des circonstances que nous n'aurions pas choisies nous-mêmes pour nous mettre au défi. Si vous voulez, pour développer un peu les muscles de notre foi. Car il ne sait pas qu'on soit content avec la foi chrétienne, avec l'Église chrétienne, car grosso modo, tout va bien pour moi. Dieu nous pardonne grâce à Jésus et nous disons, « Ah oui, ça, super, c'est bien, merci. » Dieu nous adopte dans sa famille et nous disons, « Ah oui, ça, c'est bien, c'est agréable, merci. » Dieu nous promet un avenir glorieux et nous disons, « Oui, super, j'aimerais bien ça. » Mais ensuite vient la difficulté dans la vie, la déception parfois dans la vie, l'épreuve dans la vie, la maladie et la tristesse dans la vie. Et à ce moment-là, le cœur dit, « Ah non, ceci, ce n'est pas ce que je veux. » Dieu ne peut pas être un Dieu d'amour s'il permet ces circonstances que je dois vivre. Non. Et donc, on doit poser la question, est-ce que je crois en Dieu pourvu qu'il me donne ce que je veux? Ou est-ce que je crois en Dieu car je lui fais confiance pour mon avenir, quoi qu'il arrive dans ma vie? Je pense que nous savons tous ce que c'est de rencontrer ou de devoir supporter des personnes avec qui tout va bien, pourvu que nous ne soulevions pas certains sujets avec eux. Vous connaissez ces personnes dans votre entourage? Dès qu'on pousse le mauvais bouton, la personne s'enflamme de colère. Okay? Peut-être vous connaissez un chef qui est un peu comme cela au travail. Ou un ami qui est ami, pourvu qu'on ne parle pas d'un sujet d'un autre. Peut-être même vous avez un conjoint qui est comme cela. Vous savez, d'être comme ça, c'est une forme de manipulation, de dire non, vous ne touchez jamais à ce sujet-là. Les autres doivent toujours faire très attention avec vous pour maintenir la paix avec vous. C'est triste, n'est-ce pas, d'agir de la sorte, de devoir vivre avec de telles personnes. Mais essayez de faire ça avec Dieu. C'est mal barré, mes amis. Quand Dieu est Dieu, dans sa bonté, oui, parfois en tant que bon Père céleste, il nous enlève certaines choses. Il permet certaines circonstances pour que nous grandissions dans la foi. Si vous voulez juste voir un exemple de cela dans l'Épître aux Hébreux, comme on ne va pas faire l'ensemble de cette épître pendant cette série, vous pouvez juste tourner à la page 1213, donc Hébreux chapitre 12 ou 1214. Et le verset 5 et 6, nous lisons ici, que les Hébreux, ils avaient oublié l'exhortation qui vous est adressée comme un des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous êtes sous la discipline de Dieu par des différentes circonstances difficiles dans la vie. Il faut reconnaître que parfois Dieu permet de telles choses pour que nous grandissions dans la foi. Au lieu d'avoir un cœur méchant et incrédule, non, nous devons apprendre la discipline pour endurer. C'est là d'où vient la méchanceté, si je peux le dire, de l'évangile de la prospérité. Roby donne un séminaire la semaine prochaine à l'Institut biblique sur ce sujet-là. Mais l'évangile de la prospérité proclame rien que de bonnes choses pour des chrétiens. Et c'est trompeur. Jésus nous avait avertis de cette difficulté, n'est-ce pas, dans la parabole du semeur, que c'est possible de recevoir la parole avec joie et dire oui à l'évangile, mais une fois qu'arrive l'épreuve, parce que de telles personnes n'ont pas de racines, ils s'éloignent du Seigneur. Ils n'étaient que des chrétiens des beaux jours, si vous voulez. Cela ne vous a jamais arrivé de dire, peut-être on ne dira jamais à haute voix ceci, mais vous savez, j'ai envie de laisser tomber la foi chrétienne. C'est exigeant, la foi chrétienne. Je n'aurais pas choisi un Dieu qui permet de telles choses dans ma vie à moi. Vous y pensez de temps en temps? Je ne dirai peut-être pas ici devant les autres, mais bien sûr, nous y pensons. Parce que nous avons un cœur qui n'est pas neutre, mais qui doit se battre pour ne pas tomber dans l'incrédulité. Ce n'est pas uniquement l'épreuve, mais également, Jésus continuait, les choses qui peuvent étouffer la bonne semence, les épines, c'est-à-dire les inquiétudes de la vie, les richesses, les plaisirs de la vie. Le verset 13 parle de notre texte, effectivement, de la séduction du péché. Le péché, voyez-vous, n'est jamais livré dans une boîte emballée avec du scotch, avec des mots « Attention, péché à l'intérieur, risque de destruction ». Non, c'est pas comme ça, le péché. Non, c'est plutôt emballé avec papier cadeau, je dirais. Nous avons donc envie de l'ouvrir, pensant que ce qui s'y trouve nous rendra heureux par la suite. De nouveau, Hébreux chapitre 11 nous donne l'exemple de Moïse, verset 25. Moïse qui préférait quitter le palais royal, être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Oui, pendant un temps, ce péché l'aurait rendu heureux, en quelque sorte. Mais à plus long terme, ça mène vers l'abandon et la destruction. Le péché promet beaucoup à nous encore aujourd'hui, mes amis. Un petit mensonge d'ici ou là pour avancer dans le boulot, on dit, ce n'est pas un grand mensonge. Les autres le font, quoi qu'il en soit. Où est le mal? Ou un petit regard d'ici ou là. Mais écoute, il ne faut pas prendre la Bible à la lettre. Comme ça, ce n'est pas super méchant. Je fais pas vraiment tort aux autres quand je fais cela. Une petite absence pendant un temps à l'église. Oui, mais quand même, c'est compréhensible. Avec toutes les autres choses que j'ai à gérer dans ma vie, qui peut réclamer plus? Mais poursuivre ce chemin-là, la séduction du péché, être enchanté par le péché dans notre vie, et d'ici 2-3 ans, on termine nulle part dans la foi chrétienne. On abandonne la foi chrétienne. Je pense tristement à de nombreuses personnes pour qui cela est le cas. Prions, chers amis, que cela ne soit pas le cas pour aucun d'entre nous. Que nous soyons donc avertis par rapport à ce danger. Voyons le lien entre la méchanceté et l'incrédulité ici. C'est la méchanceté, le désir de faire ce que Dieu me dit de ne pas faire, qui a pour résultat l'incrédulité. On n'est pas neutre en disant que je ne crois pas, vous savez. Être incrédule, non-croyant, c'est de réclamer une liberté qui me permet de faire ce que j'estime bon à mes yeux. Quand je n'ai plus de créateur et juge devant qui je dois comparaître. Dans notre première exhortation, c'est de ne pas abandonner la foi à cause du péché, à cause de l'égoïsme. Donc, notre foi se manifeste réelle lorsque nous sommes dans le désert, que nous ayons des racines plus profondes pour tenir bon le jour où tout ne tourne pas rond pour moi. Deuxième exhortation, allons maintenant positive. Exhortons-nous mutuellement, bien comprendre le rôle des uns et des autres dans notre salut, c'est-à-dire dans notre jouissance de notre salut, notre persévérance jusqu'au bout. C'est important, exhortez-vous, verset 13, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc si la première exhortation met l'accent sur notre responsabilité individuelle devant Dieu, cette deuxième exhortation met l'accent sur notre responsabilité collective. Exhortez-vous. Il ne dit pas, notons bien, que le pasteur ou les anciens de votre église doivent vous exhorter. Non, exhortez-vous chaque jour. Ça signifie, je pense, deux choses. Premièrement, que vous dépendez des autres pour votre persévérance dans la foi chrétienne. C'est à travers un contact régulier, engagé, au sein du peuple de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, que nous nous mettons en contact avec suffisamment de frères et sœurs qui se soucient de nous, qui prient pour nous, qui par leur exemple, leur amour, passion, leur exhortation ponctuelle, ils nous exhortent à persévérer dans la foi chrétienne. Se tenir en dehors de ce contact régulier, de cet engagement parfois coûteux, c'est vrai, c'est parfois coûteux, c'est de se croire plus fort que je le suis. C'est naïf. Nous avons besoin des autres pour tenir bon dans la foi. Quel orgueil terrible de faire fi à cela, chers amis. Dans une église comme la nôtre, là où il y a beaucoup de va-et-vient, il me semble, nous devons prendre cet avertissement en compte. Oui, c'est sympa de venir à l'église de temps en temps. Oui, cela pourrait me donner un petit boost spirituel, en quelque sorte, quand je viens de temps en temps. Mais nous dit ce texte, cela ne suffit pas dans le combat contre le péché. Maintenant, juste Hébreux chapitre 10 qui souligne ceci pour nous. Hébreux chapitre 10, verset 24, nous dit ceci, page 1211, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Voyez, c'était ça leur danger, d'abandonner leur assemblée, de ne plus exhorter les uns les autres. Mais là, si premièrement, donc, sous ce point-ci, nous dépendons des autres et de leur exhortation, deuxièmement, cela signifie que les autres dépendent de nous pour leur persévérance. Est-ce que vous savez cela? Oui, à travers votre exemple, vos prières, votre engagement régulier et sacrificiel au sein d'une église locale, votre exhortation régulière, c'est à travers ces choses que d'autres frères et sœurs seront capables de tenir ferme dans la foi. Dire « Oh non, personne n'a besoin de moi dans cette église », c'est de mécomprendre fondamentalement ce que c'est une église. C'est de faire fi au bien-être spirituel des uns et des autres. Faire fi à l'église locale, c'est de faire fi aux différents membres de la famille. Mais ces membres de la famille, ils ont besoin de vous. Vous les privez d'un moyen important pour leur propre persévérance dans la foi. Car ne pas estimer la famille, cela décourage d'autres membres de la famille qui eux aussi peuvent se dire « Ah, ben vous savez quoi, il ne faut pas prendre la foi comme étant aussi importante de cela, car X ou Y ou Z, pas pour lui, ce n'est pas aussi important non plus. » Bien sûr, nous devons nous confier à Dieu lorsque nous sommes en difficulté, mes amis. Mais Dieu se sert de nous, de son Église locale, des frères et sœurs en Christ, pour que nous puissions persévérer. Donc, vous savez, fréquenter une Église n'est pas primordialement une relation verticale, moi et Dieu. Parce que je peux avoir cette relation verticale, moi et Dieu, chez moi, avec ma Bible. Non, verticale, moi et Dieu, représente plus ce qui se passe lors d'une assemblée catholique. Parce que là, il y a un sacerdoce qui est censé amener l'homme dans la présence de Dieu. C'est moi et Dieu qui compte. Mais fréquenter une église d'après le Nouveau Testament comprend la verticale, moi et Dieu, mais a pour but l'exhortation horizontale, les uns envers les autres, instruits par Dieu dans sa parole, afin, parce que nous sommes rassemblés, d'exhorter les uns les autres. Bien sûr, la façon par laquelle nous exhorterons les uns les autres varie entre une personne et une autre. C'est clair, selon nos dons, selon nos personnalités. Certains sont plus directs, d'autres sont plus timides. C'est normal. Mais peu importe notre personnalité, c'est important de capter que la foi, ma foi, n'est pas en fin de compte rien qu'une relation privée et personnelle avec Dieu. Non, les autres sont concernés par ma foi. Okay? Y compris Wissam. Oh, voilà, c'est bien. Okay? Les autres sont concernés. Si vous n'avez personne, selon vous, qui s'intéresse à vous spirituellement parlant, bah, puis-je vous demander de prier et de se lancer pour que vous vous intéressez à d'autres? Parce que lorsque vous vous lancez dans cela, bah vous allez voir d'autres de retour vont se lancer envers vous. C'est important, cela, chers amis, pour recevoir et donner cet encouragement qu'il nous faut. Il y a 2 jours, j'ai reçu un email d'un ami chrétien de longue date qui est mûr et expérimenté dans le ministère chrétien, dans lequel il exprimait son chagrin et ses peines actuelles. Il mentionnait ses envies et ses jalousies, ses déceptions qui le guettaient depuis un certain temps. Alors, vous savez, écrire une telle chose à quelqu'un qui connaît de longue date, ça prend de l'humilité, n'est-ce pas, d'en parler ainsi. Moi, j'aimerais vous demander si vous avez cette humilité, chers amis, de chercher de l'aide, de souffrir suffisamment que d'autres ne voient pas que le chrétien de bonne apparence, de façade extérieure, chrétien de beaux jours, tout fier, mais qui voit plutôt le chrétien humble, un mendiant spirituel, dans le besoin, mais gracieux, qui s'accroche à Jésus-Christ. Exhortez-vous chaque jour, tant que nous puissions dire aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Cette exhortation continuera la semaine prochaine, chapitre 4, où l'accent tombe sur le repos, dont parle le psaume 95. Mais ce matin, l'accent tombait sur le aujourd'hui. Aujourd'hui, tout comme ceux qui lisaient le psaume 95 devaient apprendre, tout comme ces premiers chrétiens qui lisaient l'épître aux Hébreux devaient aussi apprendre de ne pas abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nous, les croyants de cette église évangélique à Woluwe-Saint-Lambert, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs comme lors de la révolte. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cet encouragement, cette exhortation de ne pas endurcir notre cœur, d'être en garde contre un cœur mauvais et incrédule. Et aussi d'apprendre que nous devons nous exhorter les uns les autres chaque jour. Donne-nous d'exercer ce ministère dans notre Église, les uns envers les autres, et donne-nous d'être ceux qui sont conscients du danger, d'un cœur qui s'endurcisse contre toi. Que tu nous aides, Seigneur, dans ta grâce, à persévérer avec Jésus-Christ, de se réjouir de ce que nous partageons en Christ, quoi que nous ayons comme circonstances dans la vie. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.